la diversité des cultures a été une façon tout à fait essentielle pour l'humanité de se développer, de se maintenir, et que dans cette espèce de monoculture universelle vers laquelle nous nous dirigeons, si nous n'y sommes pas déjà, eh bien je ne me reconnais plus très bien, mais ça n'a pas d'importance, j'appartiens à un autre siècle, à une autre génération. Ce que je constate, ce sont les ravages actuels, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, et le fait que du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous un sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire, et je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime.
Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'écologie peut-elle être nationale? Avec notre invité, Hervé Juvin, essayiste, homme d'affaires et homme politique aujourd'hui, auteur en 2013 de La Grande Séparation pour une écologie des civilisations paru chez Gallimard, et de France, Le Moment politique aux éditions du Rocher paru l'an dernier. Après avoir travaillé au nom de l'Europe avec Raymond Barre, collaboré à la revue Débat, il se rapproche par la suite de Marine Le Pen à partir de 2016 avant d'accepter de figurer cette année en cinquième position sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Conservateur libéral, tendance identitaire, influencé par Claude Lévi-Strauss, l'auteur de Triste Tropique qu'on entendait en ouverture, très bon en économie, penseur de l'écologie, Hervé Juvin est perçu aujourd'hui, à tort ou à raison, il nous le dira, comme la caution intellectuelle du mouvement. D'où notre invitation aujourd'hui. Les idées d'un homme sont-elles transposables à l'échelle d'un parti? Comment son projet, ses idées ont-elles pu influencer le programme européen sur lequel le Rassemblement national fait campagne, et notamment son chapitre écologique, un thème longtemps considéré comme un peu secondaire par le Front National, ce passe-temps pour Bobo, disait en son temps le fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen. Bonjour Hervé Juvin.
Bonjour.
Un ralliement tardif au Rassemblement national, qui a fait sa mue idéologique? Le Front National, Rassemblement National, ou vous-même?
Peut-être un peu les deux. Je reviendrai sur l'émotion provoquée chez moi par les propos de Claude Lévi-Strauss. Comment ne pas voir ces capitales asiatiques, la Chine récemment, la Chine centrale, où pas un homme, pas une femme ne sort dans la rue sans un masque destiné à le protéger des particules fines et d'un air néfaste à la santé. Comment ne pas revoir ces capitales de la poussière, où s'accumulent des populations africaines chassées de leurs villages, souvent par des multinationales minières ou de l'agroalimentaire, en quête de l'espoir d'une vie meilleure que ces capitales ne leur donneront jamais. Et puis comment ne pas entendre ce mot de l'empoisonnement qui crée ces maladies de la modernité que sont l'obésité et les maladies cardiaques. Vous savez que l'espérance de vie est en train de stagner, voire de reculer en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Cela dû à une alimentation industrielle saturée de graisse, saturée de sucre, gravement néfaste pour la vie humaine. C'est plus le progrès qui nous conduit, nous sommes sur une régression globale des conditions de la vie humaine. C'est, je crois, ce que l'on peut dire en écho aux fortes paroles de Claude Lévi-Strauss. Ça explique probablement une partie de mon évolution personnelle. J'avais publié, tôt dans les années 2000, un livre qui s'appelait « Produire le monde » aux éditions Gallimard. Ce livre disait « Que se passe-t-il quand c'est l'homme qui produit le monde qui l'entoure ?» Ce que les scientifiques ont concrétisé sous l'appellation d'anthropocène. Nous sommes entrés dans un âge où ce sont les hommes qui fabriquent la planète. Ce livre était très optimiste. J'étais consultant à l'époque et je crois avoir un peu cédé à la mode du management optimiste. Tout va bien se passer si on prend les moyens que tout se passe bien. Je n'ai plus cet optimisme. Je constate que les conditions globales, les ressources, la vie humaine elle-même est en train de se dégrader à peu près partout dans le monde. Je suis inquiet et j'ai fait ce chemin qui me conduit à dire aujourd'hui que l'écologie, la science des systèmes vivants complexes, devrait être la science de référence de tout projet politique, plus l'économie, parce que l'économie de la croissance, l'économie de la finance mondialisée nous mène certainement aux catastrophes que nous commençons à pressentir. L'économie ne doit plus dicter sa loi aux politiques. La science écologique doit devenir la science de référence de la politique.
La finance, vous avez travaillé pour elle, donc il y a aujourd'hui une forme aussi de repentance dans votre choix de vous tourner vers l'action politique. Ce n'est plus l'économie qui doit dicter sa loi aux politiques, mais selon vous, quoi ? Le politique qui doit dicter sa loi à l'économique, d'où votre engagement aujourd'hui dans cette campagne européenne ?
Certainement, j'ai été un disciple de Karl Polanyi et du réenchâssement de l'économie dans la société. Je constate qu'aujourd'hui, l'économie dévore la société. L'économie ne répond plus aux besoins des hommes. Ce sont les hommes qui ont besoin de travailler pour satisfaire aux besoins d'une croissance devenue folle. Claude Lévi-Strauss, mais bien d'autres, Philippe Descola, se sont exprimés avec beaucoup de clarté sur ce thème. Les moyens de la vie sont en train de détruire la vie elle-même et l'obsession de la croissance infinie sur une planète finie est devenue le premier risque pour l'humanité.
Avec vous, un nouveau courant de pensée serait né au sein du Front National, Rassemblement National, le juvinisme, comme on l'appelle. Alors on va essayer de comprendre jusqu'à 13h30 quelle en est la matrice. On a commencé à en voir un peu les fondamentaux, avec notamment Claude Lévi-Strauss, mais on va détailler. Sur la question économique d'abord, Frexit, il en a été question pendant un moment au sein du Rassemblement National, de cette sortie de l'Union Européenne, ou plutôt de quitter la zone euro, ce qui n'est pas la même chose. Quelle souveraineté, vous, national ou monétaire, vous semble-t-il urgent de retrouver ?
La démocratie, c'est quand un peuple fait ses lois sur son territoire, décide lui-même des conditions d'accès, de résidence sur son territoire et d'accès à la citoyenneté. Et puis c'est enfin quand un peuple décide de son destin. Je constate que l'Union européenne met gravement en danger nos démocraties et la liberté des peuples de déterminer eux-mêmes leur destin. Le rêve de l'Union européenne, c'est de substituer le gouvernement des experts et des juges au gouvernement du suffrage populaire et du suffrage majoritaire. Ceci nous semble inacceptable. Vous avez évoqué le Frexit et vous avez évoqué la sortie de l'euro. Je suis réaliste et je constate deux choses. Je constate d'abord que l'euro est considéré comme une garantie pour ces millions de Françaises et de Français pour qui leur assurance vie, leur patrimoine, leur épargne, c'est l'assurance de jours, sinon meilleurs, du moins assurés, parce qu'ils savent bien qu'ils seront confrontés à l'érosion de leur retraite. Et à tort ou à raison, ces Françaises et ces Français font confiance à la gestion européenne de la monnaie. Le deuxième point, il est géopolitique. Je suis inquiet que, sous la façade affichée d'un monde multipolaire, nous allions de fait vers un partage du monde bipolaire entre la Chine et les États-Unis. Et je souhaite que l'Europe, je dis bien l'Europe et pas l'Union européenne, prenne toute sa place dans un monde multipolaire. Ça veut dire, de manière incontournable, disposer d'une monnaie de réserve internationale, disposer d'une monnaie de paiement, notamment des matières premières et de l'énergie, et disposer par ailleurs d'un système de paiements internationaux totalement imperméable à nos grands amis américains, à nos amis chinois ou à d'autres. Et ça veut dire conserver l'euro. Conserver l'euro comme monnaie de réserve, comme monnaie de paiement des échanges internationaux imperméable aux pressions américaines et aux sanctions américaines. En son temps, j'ai passé beaucoup d'années à lutter contre l'extraterritorialité du droit américain, mais ça veut dire aussi changer la gouvernance de l'euro. L'Allemagne est en train d'accumuler plus de 1000 milliards d'euros d'excédents sur les pays du Sud. L'Italie, l'Espagne, chacun cumule 400 et 300 milliards d'euros de déficit par rapport à l'Allemagne, ça n'est tout simplement pas tenable. Si nous conservons la gouvernance actuelle de l'euro et en particulier de la BCE, nous allons droit dans le mur. Je veux que l'euro devienne la monnaie des Européens et la monnaie de l'indépendance de l'Europe dans le monde. Je veux que l'euro soit la monnaie de la puissance des nations européennes dans le monde. Et pour cela, il faut d'urgence remettre la gouvernance de l'euro sur la table. Sinon, ça explosera.
C'est-à-dire réformer la BCE ?
La BCE est la seule banque centrale au monde qui, dans ses statuts, a pour seul objectif la stabilité de la monnaie. Prenez le Federal Reserve américain, prenez la Banque d'Angleterre, prenez la Banque centrale de Chine, etc. Tout ont dans leurs objectifs des éléments de croissance, des éléments d'emploi ou des éléments d'équilibre des échanges extérieurs. La BCE, dans la gestion de la monnaie, n'a qu'un seul objectif, c'est celui des taux d'intérêt. Il y en a un autre dans toute monnaie mondiale, c'est celui des parités d'échange avec l'extérieur. Il faut que les parités de l'échange avec l'extérieur soient revues, sinon nous accordons une rente indue à l'Allemagne et sinon nous pénalisons de manière injustifiée des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce qui n'ont aucun espoir de redresser leur économie avec la gouvernance actuelle de l'Europe.
Face à ce que vous appelez le mondialisme débridé, à la mondialisation, à la globalisation, en somme, Hervé Jubvin, est-ce que vous plaidez aujourd'hui pour une Europe forte ? Vous avez parlé de la Chine, de son poids aujourd'hui, de son influence, des États-Unis, de son poids, de son influence aujourd'hui, la peur d'avoir, non pas une Union européenne, mais une Europe, je ne comprends pas très bien la distinction, mais coincée un peu entre les deux. Est-ce qu'il faut maintenant, pour réagir et exister, une Europe forte ?
D'abord, l'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est aussi la Suisse, c'est aussi la Norvège, c'est aussi la Serbie, c'est aussi sans doute bientôt la Grande-Bretagne si le Brexit arrive à son terme. L'Union européenne n'est pas l'Europe. Et puis, c'est un peu facile de le rappeler, mais enfin, l'Europe, elle est plurimillénaire. De combien de décennies peut se prévaloir l'Union européenne et de quelle réussite peut-elle se prévaloir ? Je n'ai pas envie d'entrer en politique à ce sujet, mais enfin, mon inquiétude est grande quand je vois que dans le projet de la liste qui s'appelle pompeusement Renaissance, 90 fois apparaît le mot Europe et 9 fois seulement le mot de France. Est-ce que la mission de ce gouvernement est de liquider ce qui reste de la France pour la diluer dans une Union européenne inconsistante ? Est-ce que l'on a honte de s'appeler France et de s'appeler Français ? L'Union européenne n'est pas l'Europe et je considère que l'Union européenne met gravement en danger l'Europe. Parce que l'Europe, ce sont les nations. Je suis européen parce que je suis français. Comme d'autres sont européens parce qu'ils sont suisses, parce qu'ils sont serbes, parce qu'ils sont italiens. Ils ont partagé les conflits historiques de l'Europe. Ils sont porteurs d'une histoire européenne à travers leurs nations et à travers leurs régions. Une Union européenne qui entend défaire les nations nuit gravement à l'Europe et met en danger la puissance et l'indépendance de l'Europe. C'est contre quoi je me bats et naturellement au service d'une Europe forte. Mais l'Europe ne existent, sera forte elles... que si les nations sont fortes.
Oui, mais elles existent pour l'instant les nations. Elles n'ont pas été défaites, bien elles entendu, ont chacune voix au débat.
Bien entendu, et je souhaite qu'elles reprennent une part de leur souveraineté qui leur a été confisquée. Je souhaite qu'elles reprennent le contrôle de leurs frontières que n'assure pas l'Europe. Et je souhaite par-dessus tout qu'elles balaient cette dépendance juridique, cette mise en conformité et cette uniformisation, encore un écho au propos de Claude Lévi-Strauss, que l'Union européenne est en train d'imposer partout. L'uniformisation de l'Europe affaiblit l'Europe. L'Union européenne, en défaisant les nations, se défait elle-même. J'ajoute qu'elle n'a toujours pas trouvé sa forme politique. Et j'observe que la forme politique de la modernité, c'est l'État-nation. Nous n'avancerons pas vers une Europe forte et vers une Europe pôle de stabilité et de paix dans le monde si nous ne resterons pas nos États-nations.
Donc vous n'êtes pas favorable à un Frexit, peut-être pas non plus à un Brexit d'ailleurs.
Non.
Mais à quoi ? Une dissolution de l'Union européenne ?
Certainement pas. Il faut que la gouvernance de l'Union européenne évolue. J'espère pouvoir m'y consacrer à partir du 26 mai prochain. J'espère que la gouvernance de l'euro et de la Banque centrale peut évoluer. J'espère surtout que les directives et l'idéologie qui habite la Commission européenne va évoluer. Et j'ai bon espoir, je pense réellement que nous allons pouvoir changer l'Europe de l'intérieur des institutions à partir de mai prochain.
C'est qui le « nous » Avec qui êtes-vous prêt à vous rapprocher, à vous unir au sein du Parlement européen à Strasbourg pour faire avancer ces idées ?
Vous savez que je n'appartiens pas au parti du Rassemblement National et donc je ne participe pas aux négociations de constitution de groupe qui certainement occupent beaucoup les uns et les autres.
Mais vous avez commencé par « je veux » et maintenant vous dites «
nous ». Je prendrai un peu de recul. Je constate partout dans le monde et aussi en Europe que les idées sont en train de changer. Je constate partout dans le monde et aussi en Europe le retour des frontières. Je retrouve partout dans le monde l'idée que la démocratie, c'est bien la liberté des peuples de faire leurs lois et ça n'est pas une tutelle venue d'en haut de je ne sais quel idéal juridique qui permettrait aux cours constitutionnels et aux magistrats de faire la loi au peuple. Je pense que l'Union européenne a été victime d'un coup d'état du droit et nos nations sont gravement menacées par ce coup d'état du droit. Tout cela, c'est ce qui monte dans le monde, c'est ce qui monte en Europe. Cela fait que dans de nombreux pays d'Europe, les idées que je défends et les idées que je retrouve dans la liste présentée par le Rassemblement National sont en train de prendre le pouvoir parce qu'elles sont la seule alternance crédible à ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, qui est en gros la dépossession de nos peuples de leur liberté et de leur indépendance. ces idées prennent le pouvoir et je ne doute pas qu'elles prendront le pouvoir et au Parlement et à la Commission européenne. Vous imaginez bien que les nominations des commissaires européens de l'Italie, de la Hongrie, etc. ne seront pas les nominations d'eurolâtres.
Avec qui ? Avec qui, Hervé Juvin ? La même question. De qui vous vous sentez proche idéologiquement aujourd'hui en Europe ? Qui pour porter ces idées avec vous ?
Alors, je me sens proche de tous ceux qui, en Europe, sont en train de reconquérir leur souveraineté, sont en train de travailler au contrôle de leurs frontières et sont en train de travailler au rétablissement de leur démocratie contre les forces mondialistes et contre celles et ceux qui, de l'extérieur, voudraient nous faire la loi.
Dans France, le moment politique, vous défendez donc un nationalisme libéral, seul à même pour vous de redresser le pays. Ça va de l'instauration d'un taux unique d'impôt sur le revenu du travail et du capital à une TVA modulée, en fonction aussi du respect par les entreprises des normes sociales et environnementales. Vous parlez aussi de transformer les gestionnaires de grandes infrastructures, pardon, je vais y arriver, du rail aux routes en coopérative, un principe où chaque Français pourrait aussi avoir sa part. Ces propositions, ce projet, est-ce qu'il vous semble réaliste aujourd'hui dans le cadre européen actuel ?
Non seulement il est réaliste, mais il est urgent. Je prendrai l'exemple de l'ouverture du capital ou de la vente par l'État de ses participations dans ADP. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt que le Conseil constitutionnel a ratifié le principe d'une consultation par référendum des Françaises et des Français. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Pour renouer les liens entre les Français et leurs entreprises, vous savez que l'actionnariat direct des Français a été divisé par plus de 3 depuis l'époque où Pierre Bérégovoy en avait fait un élément important de la démocratie économique qu'il souhaitait. Je propose que les privatisations, les ouvertures de capital à l'avenir aient lieu sous forme coopérative. C'est-à-dire qu'au lieu de proposer des actions, on propose des parts sociales qui fassent de tous les Français qui le veulent des associés copropriétaires de leurs biens communs, que sont les autoroutes, que sont les ports, que sont les parkings, que sont les aéroports, mais qu'est la Poste, qu'est la SNCF, que sont les sociétés qui exploitent les grandes infrastructures de notre territoire.
Mais aujourd'hui, Bruxelles, que tous ceux qui veulent en soient associés. Aujourd'hui, Bruxelles invite plutôt à l'ouverture à la concurrence, encore et encore, des barrages, du rail, des aéroports.
C'est l'idéologie délétère bruxelloise que j'ai bien connue à un moment où je tentais de défendre les banques coopératives et la mutualité française contre un commissaire européen qui disait « Je ne veux voir qu'une seule tête, il n'y a que le modèle des sociétés par action qui est légitime en Europe. » C'est contre cela qu'il faut se battre et je rejoins le combat pour la diversité. Le modèle mutualiste et coopératif français est une pépite que nous partageons avec l'Autriche, l'Allemagne, quelques autres pays, que ne partagent pas d'autres régions dans le monde. C'est un mode social et c'est un mode de lien entre le public et les entreprises qui s'efforcent d'enrichir un territoire. C'est la voie pour moi royale de la responsabilité nationale et territoriale des entreprises. Je suis respectueux de la diversité, je pense même que c'est ce qui sauvera l'humanité. L'humanité sera sauvée par la diversité des sociétés humaines. Si 10 milliards d'êtres humains n'ont que le désir de vivre comme un Américain moyen, vous savez qu'il y faudrait une trentaine de planètes. C'est la diversité de nos modèles de gouvernance, c'est la diversité de nos modèles d'affaires et d'organisation qui nous sauvera. À cet égard, je réitère ma proposition que dans toutes les opérations d'ouverture de capital public ou de privatisation, l'association soit proposée à tous les Français qui le veulent et que le modèle coopératif devienne le modèle d'exploitation et de mise en valeur de nos biens communs nationaux.
Hervé Juvin, l'écologie, un thème qui vous est cher. On dit qu'avec vous, le Rassemblement national serait en train de faire sa conversion écologique, enfin encore à demi-mot. En tout cas, vous serez un peu la caution verte de ce parti. CNews, je vous propose d'écouter un extrait de l'heure des pros, tout d'abord, avec Elisabeth Lévy, invitée Claire Nouvian, elle est militante écologiste, candidate aux européennes de Place Publique.
Vous diriez que depuis 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement climatique, oui ou non?
Ah oui, il y a une modification. Dérèglement, il y a une modification. Oui.
Mais attendez, ce vous voyez bien là, vous posez bien aussi qu'on n'a plus.
C'est pas une émission climato-sceptique, quand même.
Mais les climato-sceptiques, ils n'ont pas le droit de parler quand on veut faire une émission.
Plus de climato-sceptiques.
Si, il y en a beaucoup, madame.
Ah non, mais c'est incroyable.
Il y en a beaucoup, madame.
Le mot sceptique en science n'est pas une insulte. Au contraire, c'est une vertu. Je pense qu'il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous, vous aimez,
que si.
Vous aimez comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes et quatre... Je n'ai pas fini.
Mais c'est peut... rétrograde, on ne peut pas laisser dire ça.
Et alors, eh bien, vous allez quand même me laisser le dire, parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord.
En fait, vous êtes, mais vous êtes dingue.
D'accord, vous pouvez m'assurer d'aller pas imposer aux autres de ne pas dire ce qui vous plaît pas.
Mais vous êtes, on est au 21e siècle.
Non, mais ça suffit, cet argument.
Non, mais c'est pas possible.
Mais si vous ne me laissez pas parler, j'arrête.
Allez-vous cultiver scientifiquement, enfin. Non, mais ça...
Voilà, c'était sur CNews il y a à peu près une semaine. Le changement climatique n'est pas une religion. Il est utile qu'il puisse y avoir précisément des débats pour savoir ce qui fait le plus de mal au climat. Ça, c'est ce que disait Marine Le Pen il y a un an environ. Le réchauffement climatique, il y a un vrai débat des scientifiques sur cette question-là, disait Nicolas Bay, estimant que la responsabilité humaine entière, en tout cas, n'était pas prouvée dans le réchauffement climatique. Hervé Juvin, est-ce qu'on peut encore afficher des prises de position climato-sceptiques dans le débat public ? Est-ce qu'on peut encore mettre en doute la responsabilité de l'activité humaine dans le réchauffement climatique, publiquement ?
L'excellente Elisabeth Lévy disait que c'était une vertu de la science d'être toujours soumise à l'expérimentation et à la question. Je ne saurais pas être en désaccord avec elle sur ce point. Mais enfin, je ne vais pas non plus développer le sérieux, l'immense collection de travaux du GIEC. Mais enfin, tout montre d'abord... que des choses sont bien en train de se passer sur le climat dans le monde. Il suffit de parcourir un peu le monde pour voir qu'en Asie ou en Afrique, on en est beaucoup plus conscient et beaucoup plus préoccupé que dans nos heureuses régions tempérées. Et la seconde chose, c'est qu'il est difficile d'aller dans le monde, de constater l'impact des centrales thermiques au charbon, l'impact du transport aérien, l'impact de cette fiction économique et la gratuité du transport à longue distance, pour ne pas douter que l'activité humaine est certainement à l'origine d'une part majeure du changement climatique et du dérèglement climatique qui va nous exposer à des accidents dont les plaines du Midwest américain ont été les victimes voici quelques mois, 1 million de têtes de bétail mortes, des millions d'hectares incultivables pendant des années. Voilà le visage de la planète auquel nous allons être confrontés dans les années à venir.
Alors
donc je ne suis
pas
climato-sceptique. J'accepte totalement qu'il y ait des débats et qu'il y ait des doute sur ce sujet. Pour ma part, je constate le changement climatique, je l'attribue largement à l'action humaine. Je suis en revanche en désaccord avec certains écologistes sur la manière de faire. Par exemple, je ne crois pas beaucoup aux grandes messes mondiales et je ne crois pas beaucoup aux grands accords internationaux. Vous savez que le très prétentieux accord de Paris sur le climat, malheureusement, ne va pas parvenir à ses objectifs et que nous sommes partis pour un réchauffement bien supérieur à ce qui était l'objectif des accords du Paris, dont d'ailleurs un certain nombre d'États se sont retirés en le disant, ou ce qui est probablement plus grave, sans le dire.
Sur la question du réchauffement climatique, qu'est-ce qui empêche Marine Le Pen de dire clairement, d'affirmer cette responsabilité humaine dans le réchauffement climatique ? Pourquoi c'est toujours dit à demi-mot ?
Je pense que deux raisons expliquent cela. D'abord, probablement, une part encore non négligeable de climato-sceptiques. Et là, c'est le travail de tous ceux qui ont une véritable conviction écologique de les convaincre, tout simplement par des éléments scientifiques et des éléments de preuve. Et puis je pense que le second point, mais celui-là est éminemment politique, c'est que la sensibilité d'une grande partie de la droite conservatrice et du Rassemblement national, c'est que l'écologie, les Verts, a été l'objet d'un hold-up de l'ultra-gauche, un hold-up aussi du mondialisme. Quelle contradiction que le sans-frontiérisme et l'écologie, là où les écosystèmes ne survivent qu'à partir du moment où ils sont protégés de l'extérieur. Mais il y a probablement l'idée que tout ce qui est vert, tout ce qui est écologique appartient à l'ultra-gauche, et il y a une espèce de réticence épidermique à l'adopter.
Qu'est-ce qu'il y a de vert, qu'est-ce qu'il y a d'écologique aujourd'hui dans le programme du Rassemblement national en vue des prochaines européennes ?
Oh, certainement beaucoup de choses. La première chose, c'est le respect des biens communs. Quel mensonge que nous sommes tous migrants, nous sommes tous nomades, nous ne sommes que des individus de droit. Nous sommes tous les enfants de celles et de ceux qui nous ont conquis ces territoires, qui ont préservé ces territoires, dont certains sont morts pour que nous vivions dans cette belle France. Nous ne sommes pas des individus hors sol, nous ne sommes pas venus de rien, nous sommes Françaises et Français, héritiers d'une longue histoire, et ça veut dire que nous protégeons ces territoires, y compris de tous les pillards multinationaux, y compris de la finance mondialisée qui pour moi est la première menace sur nos ressources. Le deuxième élément, c'est le juste échange que nous voulons substituer au libre-échange. Le libre-échange, c'est la course au moins-disant environnementale, mais aussi sociale et fiscale. Elle est inacceptable. Contrôlons ce qui rentre à nos frontières.
Alors ça s'appelle aussi, dans votre bouche, le localisme. C'est un concept que vous avez développé, on va y revenir. Dans la grande séparation pour une écologie des civilisations, vous faites appel aux frontières pour protéger l'environnement et préserver la biodiversité. Alors en quoi la mobilité des hommes perturbe-t-elle les écosystèmes et surtout de quelles menaces les frontières nous protégeraient-elles? Est-ce qu'elles auraient pu, par exemple, nous protéger du nuage de Tchernobyl?
En France, selon les spécialistes, la radioactivité n'a jamais dépassé 200 becquerels. L'unité de mesure par litre de lait ou d'eau, alors que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a fixé comme limite, toujours sans danger, 2000 becquerels. Depuis, la radioactivité décroît régulièrement pour revenir à des taux normaux voisins de zéro. Lorsque le nuage radioactif est redescendu des pays scandinaves vers l'Europe du Sud, il a frôlé la France. Nous étions le 1er mai, souvenez-vous, une météo parfaite, une photo satellite avec une France dégagée, pas de pluie. Ce nuage radioactif invisible n'a donc pas été lavé par des pluies, ce qui explique que très peu de radioactivité soit redescendue, précipitée sur le sol, dans les prairies et les rivières.
Alors de cela, c'était un son de 1986, Hervé Juvin, les frontières auraient pu nous protéger? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt envisager directement une sortie du nucléaire en priorité?
Votre question illustre parfaitement les paradoxes de l'écologie. Bien sûr que les frontières n'ont pas arrêté le nuage radioactif et bien sûr que les frontières n'arrêteront pas le changement climatique. Simplement, le problème du nucléaire, c'est que seuls des États forts, des États riches et des États en plein contrôle de leur territoire peuvent sans risque disposer de centrales nucléaires, qu'elles soient à utilisation civile ou naturellement à utilisation militaire. Le drame du nucléaire, ce sont les États faillis. Le drame du nucléaire, ce sont ces États, notamment dans l'ancienne Europe de l'Est, qui n'ont plus les moyens d'entretenir leurs centrales nucléaires, qui n'ont plus les moyens d'assurer la sécurité de leurs équipements. Et vous savez que l'Union européenne, mais à juste titre, a dépensé des milliards pour aider un certain nombre de pays de l'Est à remettre en état et à maintenir en bon état de marche leurs équipements nucléaires. Donc, la question est globale, les réponses sont nationales ou locales. J'emprunterai à cet égard les réflexions au philosophe allemand Peter Sloterdijk. Il dit que l'écologie, ça ne peut pas venir d'en haut, parce que les réponses écologiques viendront toujours de l'association des intelligences au plus près des territoires. Je partage entièrement ce constat. C'est pourquoi je préfère de loin le modèle associatif de France Nature Environnement, l'association de tous les militants environnementaux en France, au modèle de ces grandes machines à faire du fric que sont les ONG et les fondations écologiques internationales, dont on sait bien qu'elles sont très efficaces pour contester la souveraineté des États, par exemple au Brésil, et extrêmement peu efficaces contre les multinationales qui les fréquentent.
Mais je pense
qu'il y a là
pas...
une matière d'escroquerie écologique qu'il faudrait dénoncer.
Alors, est-ce que vous ne prenez pas aussi, Hervé Juvin, le problème un peu à l'envers? Le réchauffement climatique, c'est quand même la cause des nombreuses migrations aujourd'hui et des conflits qui devraient d'ailleurs se multiplier à l'avenir avec la hausse des températures. Près de 19 millions de déplacés climatiques en 2015 et près de 250 millions de personnes forcées de s'exiler à cause de ces bouleversements climatiques d'ici 2050, si on se fie aux estimations des Nations Unies. Est-ce qu'il ne faut pas attaquer le problème à la racine plutôt que de mettre des murs aujourd'hui, s'attaquer aux causes du réchauffement plutôt qu'aux victimes?
Alors, s'attaquer aux causes du réchauffement, tout à fait. J'ai évoqué le transport, la fiction du transport gratuit à longue distance. J'ai évoqué le drame des centrales à charbon que multiplie la Chine, mais aussi l'Allemagne à la faveur de son abandon totalement irresponsable du nucléaire. Je constate d'ailleurs que dans le programme de la prétendue renaissance, il n'est jamais fait question du nucléaire français, qui est quand même le meilleur moyen de fournir de l'énergie totalement décarbonée à nos industriels et peut-être demain à nos automobiles, puisque la seule automobile électrique propre, c'est celle qui recharge ses batteries à l'énergie nucléaire. Vous avez donc totalement raison, je vous répondrai en deux points. Le premier, c'est qu'il est urgent que les politiques de développement soient des politiques de localisation et de stabilisation des populations sur leur territoire.
Mais l'Union européenne œuvre en partie pour ça aussi, sur la question de la mobilité, celle des énergies alternatives. Une nouvelle PAC, enfin, est en discussion, peut-être plus tournée qu'elle ne l'a été jusqu'ici vers les petites exploitations, vers l'agriculture respectueuse de l'environnement. Tout ça, c'est pensé au niveau de Bruxelles et de Strasbourg, où vous irez peut-être demain.
J'espère que ces pensées, je constate pour l'avoir beaucoup côtoyé, que l'action de l'Union européenne dans le reste du monde et notamment au Sud continue d'être totalement habitée par un modèle de développement industriel et d'hyperconsommation et d'ailleurs de financiarisation des activités qui ne me paraît absolument pas répondre au maintien des populations dans le respect de leur culture et leurs traditions sur leur sol. Et c'est probablement comme cela que l'on combattra le plus efficacement à la fois l'immigration et aussi le changement climatique. Parce que la seconde chose que je voulais ajouter et qui m'apparaît d'évidence, de la même manière qu'une croissance illimitée est impossible dans une planète aux ressources limitées, de la même manière le principe du désastreux pacte de Marrakech sur le droit à la mobilité de tous les hommes, c'est pourquoi est-ce que les Esquimaux continueraient à vivre par moins 30 degrés? Pourquoi est-ce que certains continueraient de se maintenir dans la grande forêt tropicale humide alors que les pays à climat tempéré sont tellement attractifs et sont tellement bienveillants à la vie humaine? Ce que je veux dire tout simplement, c'est que si l'on donne un droit illimité à tout homme, à toute femme, à la mobilité internationale, nos territoires tempérés, nos climats et la bienveillance de la nature et des écosystèmes que nous avons sur nos sols seront menacés par un afflux absolument irrésistible de populations qui d'ailleurs auront bien raison d'y venir.
Pour l'instant, il n'y a aucun droit illimité. Notre biotope, c'est notre civilisation, dites-vous, Hervé Juvin. Au nom de quoi faut-il la préserver? Je vous propose d'écouter juste les mots du philosophe Régis Debré.
J'ai étudié ce qui s'est passé en l'espace de 100 ans, entre 1919, quand Paul Valéry fait le fameux texte « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels ». Et à ce moment-là, pour lui, la civilisation, c'est l'Europe. Et puis, 80 ans, 90 ans après, Huntington arrive, qui fait lui aussi le comptage, si j'ose dire, l'inventaire des civilisations, et qui ne mentionne plus l'Europe. Il parle de la civilisation occidentale, pour lui, c'est la civilisation américaine. Et donc, pour Valéry, 1919, l'Amérique, c'est une projection de l'Europe. Et pour Huntington, l'Europe, c'est une projection de l'Amérique. Donc, c'est cette inversion, si vous voulez, que j'ai essayé de scander, d'en donner une chronologie. C'est largement inconscient, ce processus, mais c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des transferts d'épicentres civilisateurs dans l'histoire de l'humanité.
Préserver notre civilisation, d'accord Hervé Juvin, mais pourquoi vous ne vous inquiétez pas plus de l'arrivée, ou vous inquiétez plus aujourd'hui de l'arrivée des dizaines de milliers de migrants en France, et peut-être plus demain avec le réchauffement climatique, que de ce que dit Régis Debré, de la McDonaldisation de notre culture, de cette américanisation qui semble pour lui menacer bien au-delà déjà notre civilisation?
Je suis parfaitement d'accord avec Régis Debré sur ce que je viens d'entendre. La culture, ça a été l'intermédiaire entre l'homme et la nature. C'est ce qu'a merveilleusement démontré Philippe Descola dans son livre « Par-delà nature et culture ». Il ne faut pas opposer les deux. La culture, c'est la liberté des hommes dans l'interprétation des contraintes du climat, du relief, de la biodiversité, etc. C'est ce qu'on est en train de détruire à grands pas. On est en train de fabriquer des hommes hors sol, dont j'ai peur que ce soit des hommes de rien, c'est-à-dire des hommes totalement déculturés. Sachons bien que nous sommes la première civilisation qui propose comme seul modèle à l'espèce humaine l'accumulation illimitée de biens et de richesses. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ça nous conduit à la destruction de toutes les cultures. Ça nous conduit à la négation même de la civilisation qui, comme le disait Claude Lévi-Strauss, n'existe que s'il y a des civilisations. La civilisation, ça s'écrit toujours au pluriel.
Mais il n'y a pas une civilisation européenne pour vous aujourd'hui ?
Il pourrait y avoir une civilisation européenne. Elle sera faite de la diversité des nations qui composent l'Europe. J'observe que l'extraordinaire dynamique européenne, elle a été portée par les relations conflictuelles, antagonistes entre les nations. Le rêve d'un être européen désincarné, déterritorialisé, uniformisé, ça me paraît le cauchemar vers lequel l'Union européenne nous entraîne. La diversité des cultures seule nous sauvera. Je plaide pour une écologie des civilisations, pour une écologie humaine qui, oui, suppose le respect de la diversité par la frontière et suppose un certain degré de séparation entre les communautés humaines. C'est leur indépendance, c'est leur souveraineté, mais c'est aussi notre survie collective qui est en jeu.
Des sociétés fermées?
Pas des sociétés fermées, des sociétés qui gèrent leurs relations avec l'extérieur comme tout organisme vivant et comme tout écosystème qui accepte de l'extérieur ce qui les nourrit, mais qui sache aussi rejeter de l'extérieur ce qui les menace.
Merci Hervé Juvin. Je rappelle le titre de vos deux derniers grands ouvrages, La Grande Séparation pour une écologie des civilisations chez Gallimard et France, le moment politique aux éditions du Rocher, paru l'an dernier. Merci à Marie Placet avec Souad Boucorsin pour la réalisation et à la technique aujourd'hui et à toute l'équipe de La Grande Table, Maya Descovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table culture avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. Très bel après-midi à tous sur France Culture. Sure.